Bonjour Virginie.
Bonjour Hugo.
Merci beaucoup de nous tout simplement recevoir au sein de ton garage.
Bah écoute, avec grand plaisir. Si tu aimes les voitures des années 50, je pense que là, tu es servi.
En effet, elle est très belle cette AMG. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est un modèle de 54 qui a été complètement restauré. Donc ça fait partie des typiques roadsters anglais de l'époque.
D'accord.
Boîte 4 vitesses avec marche arrière. La prise en main un peu compliquée quand on n'a pas l'habitude de rouler dans des voitures de cette époque-là. Mais je dois dire que c'est quand même un modèle qui a du charme.
Bien sûr.
C'est des petites autos qui sont un petit peu prisées par les collectionneurs. Parce que pratique, il y a la capote. Il y a quand même 4 vitesses. Pour une voiture des années 50, c'est quand même non négligeable.
Exactement.
Elle a un beau look. Alors celle-ci, en plus, elle est dans une configuration qui est assez rare. Cet intérieur vert, on en trouve peu. On en trouve peu en configuration avec le noir à l'extérieur.
Bien sûr.
Donc c'est vraiment une auto sympa pour aller cruiser si on fait partie d'un club. Voilà, l'entretien, ça reste assez, on va dire, rustique. Hein, le carbu, les freins, il n'y a pas d'électronique. Donc voilà, un peu les synchros de boîte de temps en temps qui sont un peu durs. Mais,
D'accord.
Mais voilà, on est sur une voiture qui est quand même très, très proche de l'origine. Dans sa restauration a été faite, on va dire, vraiment dans le respect des cuirs d'origine, du panneau de porte d'origine, levier de vitesse, volant d'origine, compteur d'origine, en miles, bien évidemment, parce que souvent, ce genre d'auto, ils ont roulé aux États-Unis.
Donc, bien sûr.
Voilà. Voilà un petit peu l'histoire de cette petite voiture.
Eh bien, parfait. Surtout que c'est très rare, en plus, d'avoir une MG dans une configuration volant à gauche.
Oui, bah souvent, c'est vrai que sur les voitures de début de siècle, alors après, pourquoi ? Mais parce que même les voitures françaises des années 20-30, je prends des Delage, je prends des Delahaye, ce sont des autos qui étaient toutes quand même en conduite à droite. Et ça vient de la course automobile. Et c'est vrai qu'au tout début des années, jusque dans les années 50, on retrouvait beaucoup, beaucoup d'autos en conduite à droite.
D'accord.
Après, années 50-60, il y en a quand même beaucoup qui circulent en conduite à gauche. Ça c'est. Mais il y a des gens que ça dérange pas. Alors par rapport au prix, par contre, c'est vrai que c'est sur une vente, une voiture qui est vendue sur le marché français, qui va être en conduite à droite, elle sera elle sera un peu moins cotée qu'une voiture en conduite à gauche.
D'accord.
Mais demain, vous voulez une Delage, vous aurez forcément une conduite à droite, quoi.
Oui.
C'était comme ça, même sur les constructeurs français. Donc ça vient pas du fait que ça soit une anglaise.
Ok, parfait.
Voilà.
Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, nous sommes actuellement dans un garage ancien, donc qui est juste magnifique, avec plein de belles voitures. Je suis en compagnie de Virginie Brosio. Donc, bonjour Virginie.
Salut Hugo.
Eh bien, merci à toi en tout cas de faire partie de ce podcast pour la 10e édition.
Avec grand plaisir. Si ça peut donner envie aux jeunes d'aimer les voitures de collection, c'est avec plaisir.
Eh bien, merci à toi. Et c'est parti pour le podcast. Donc, merci encore Virginie de participer à notre podcast
de
Automotive Vision. En fait, tout simplement, première question, je pense, est-ce que tu peux à tout hasard te présenter, notamment surtout sur ton parcours scolaire et extrascolaire ?
Alors, scolaire, moi j'ai fait une école de commerce à la base, qui m'a mené vers des postes dans le marketing, la com, tout ce qui est lié à la création de sites internet et toutes ces choses-là. J'avais la passion de la collection de côté, mais j'ai décidé que je partais sur une carrière un peu plus marketing.
Bien sûr.
Et après avoir occupé différents postes, j'ai monté ma boîte, qui malheureusement a connu, comme beaucoup d'entre nous, les problèmes avec le Covid.
D'accord.
Et c'est à la décision de la fermeture de cette société que j'ai commencé en parallèle à mettre un pied dans la collection vraiment, en ayant du réseau, en faisant des courses le week-end, en allant sur des événements. Et je me suis retrouvée avec une petite base de données en fait, de clients qui souhaitaient vendre leurs autos.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'en fait j'ai mis le pied dedans et que je n'en suis plus sortie. Donc ça fait 5 ans, en ayant passé par la case vente, on va dire commerciale pour des sociétés de vente en ligne, type Car Jagger, Vetura et autres.
D'accord.
Puis de la vente vraiment directe dans un garage de dépôt-vente, pour finir par le modèle économique que j'ai mis en place, qui pour moi est le plus pertinent de ce que j'ai vu par rapport à ce que j'ai envie de faire. Je ne dis pas que c'est le plus pertinent de ce qui existe, mais par rapport à ce que, comment moi je vois les choses dans ce milieu-là. Donc ça fait 5 ans que je suis dans la collection, mais avec voilà, un parcours plus typé marketing commercial début. Donc je dirais même que je suis un peu autodidacte en fait, dans le domaine de la collection.
Bien sûr. Et donc du coup, tu as toujours été dans le secteur de l'automobile?
Oui, plus ou moins, parce que étant jeune, déjà, j'étais passionnée. Dans la famille, on aime tous les autos. J'ai eu la chance aussi de voir des autos toute ma jeunesse avec des personnes à côté de chez moi qui restauraient des autos. Donc, j'ai toujours eu cet attrait, en fait, pour la mécanique, pour l'automobile en elle-même.
D'accord, très bien. Et à tout hasard, est-ce que tu peux donc tout simplement nous exprimer un petit peu ton parcours vraiment axé sur tout simplement les entreprises et les métiers que tu as eus dans l'automobile? Est-ce que tu as été donc uniquement commercial?
Oui.
Tout à l'heure, tu nous as parlé de marketing. Tu as eu, par
Non,
exemple...
dans l'automobile, moi, ce que je voulais, c'était vendre des autos de collection. Même si j'ai des connaissances en mécanique, mon métier principal, c'est d'accompagner et de vendre des autos de collection, accompagner les clients.
Bien sûr.
Donc, dans les trois structures dans lesquelles j'ai bossé avant de monter ma boîte, on était dans la vente de véhicules, l'accompagnement à la vente d'un véhicule de collection.
Bien
Voilà.
sûr. D'accord. Et d'où vient ta passion du coup pour l'automobile?
Ben, je te dis, petite, j'ai toujours aimé, on a toujours aimé dans la famille les autos, on a toujours eu des autos assez sympas. Mon grand-père aussi aimait beaucoup les voitures. Et puis, j'ai toujours vu ce collectionneur à côté de chez moi qui restaurait ses vieilles autos. Et moi, j'aime l'histoire,
Bien sûr.
j'aime tout ce qui parle c'est un peu nostalgique, quoi. Donc, c'est vrai que. Une auto ancienne, elle a une histoire, elle a une odeur, elle a des chromes, des bois.
Bien sûr.
Et c'est ça qui m'a un petit peu plu là-dedans. Et j'ai commencé toute seule, en fait, à bouquiner sur le sujet. Et avec un attrait particulier pour les véhicules d'avant-guerre, type Bugatti, Amilcar, Delage et autres. Et quand j'ai eu 35 ans, je me suis dit, bah, en fait, si je ne le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Je me sentais les capacités pour assumer une entreprise, puisque ça, j'en ai déjà une, donc ce n'était pas le souci.
Bien sûr.
Sur la connaissance des véhicules, même si je suis autodidacte, je pense que quand même, je pense que ce n'est pas débile en soi par rapport à mon niveau. Bien évidemment, il y a toujours des gens qui savent toujours mieux, mais on ne peut pas tout savoir. Et c'est pour ça que la culture, si tu veux, des marques et des modèles, ça vient. Quand tu prends un modèle à la vente que tu ne connaissais pas, tu apprends des choses, puis que tu peux pas tout connaître, ce n'est pas possible.
Bien sûr.
Le but étant de connaître quand même tes acquis, on va dire, principaux. Et voilà, donc moi, j'ai décidé de vivre de ma passion en me disant, bah, si je ne le tente pas maintenant, je ne le tenterai jamais.
D'accord, très bien. Et comment du coup, en fait, tu as réussi cette transition, en fait, tout simplement de vivre cette passion?
Bah, la
Explique-moi un petit peu.
transition, elle s'est faite parce que quand j'avais encore mon autre boulot à côté, j'ai commencé à mettre un pied dans la collection parce que j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés. J'ai enfin réussi à faire partie de clubs, dans des discussions. On m'invite, Virginie, on fait une sortie, tu viens. Et j'ai commencé petit à petit à avoir un pied dedans, notamment dans un club à Nice, qui a fait que je me suis vite retrouvée avec de potentielles voitures à s'occuper.
Bien sûr.
Et quand j'ai commencé, j'ai commencé avec quand même, on va dire, en portefeuille, je devais avoir 10-15 autos. C'est parce que j'avais 10-15 autos en portefeuille que j'ai décidé de mettre à mon compte.
Bien sûr.
Voilà, parce que quand je travaillais en garage, en dépôt-vente, c'est vrai que c'était le portefeuille du patron, de ce qu'il avait là. Mais moi, à côté, je faisais quand même mes choses dans mes clubs
Bien
et
sûr.
j'avais des autos qui m'arrivaient, qui m'arrivaient, qui m'arrivaient, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, là, tu en as quand même 10-15. Essaye de le concrétiser seul, en fait.
Bien sûr.
Et c'est comme ça que j'ai fait ma transition.
D'accord,
Mais je
très
ne
bien.
suis pas partie, on va dire, sans filet, en disant, bon, j'essaye.
On verra bien ce
Demain,
qui se
j'ouvre une
passe.
boîte de vente de voitures de collection, puis j'attends qu'on vienne toquer à la porte. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça
D'accord,
s'est
bien sûr.
passé que j'avais déjà un pied dedans, que j'avais déjà des connaissances et que ce portefeuille m'a amené à me dire, bon, ben là, tu peux passer le pas de dire, allez, tu te lances.
Tu peux te passer le cap, oui, justement.
Voilà.
D'accord, très bien. Et donc, du coup, tu as connu le secteur de l'automobile avant l'effet Covid, on va dire.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée cette transition avant Covid et après Covid?
Déjà, il y a le avant Covid, après Covid, mais il y a le avant 2017 et après 2017 aussi, même si ce n'est pas la même époque. C'est vrai qu'en 2017, les prix avaient flambé. Quand on est arrivé au Covid, les prix s'étaient déjà essoufflés.
D'accord.
Moi, j'ai vendu des voitures pendant le Covid, alors aussi fou que ça puisse paraître, à distance. Au contraire, les gens n'avaient rien à faire de leur journée. Ils passaient leur vie à regarder les annonces.
Bien sûr.
Et c'est là que moi, je dirais pas que le Covid m'a fait moins vendre de voitures. Je dirais qu'au contraire, j'ai eu beaucoup plus de demandes, j'ai eu beaucoup plus d'appels, j'ai rencontré beaucoup plus de monde parce que les gens, étant chez eux confinés, en soi, ils regardaient les annonces, ils creusaient des sujets que peut-être qu'ils n'auraient pas creusé en plein boulot.
Bien sûr.
Moi, je n'associe pas forcément le Covid à un changement. Moi, ce que je vois plutôt, c'est 2017, explosion des prix due à notamment des gens qui investissent dans l'automobile de collection sans forcément les acheter pour le plaisir, mais qui ont fait monter les prix.
Bien sûr.
Et je vois que après, ça a commencé à chuter 2021. Et là, 2024, j'avoue que le début d'année est quand même complexe. Mmh. Alors, crise économique, inflation... baisse du pouvoir d'achat, je ne sais pas, mais moi, je vois plus cette évolution-là. Moi, le Covid, personnellement, ça ne m'a pas changé grand-chose.
Ça n'a pas impacté, en fait.
Non.
D'accord. Enfin, au final, ça t'a même impacté, mais en positif.
Oui, plus de discussions avec les gens, plus de rencontres et des voitures qui se sont quand même vendues.
D'accord, très bien.
Ce qui est quand même...
Et parlons un petit peu de la clientèle, du coup, de collection. Est-ce qu'à tout hasard, tu as remarqué, en fait, tout simplement une clientèle qui va être différente des clients, on va dire, avec des véhicules, on va dire, un peu plus récents. En fait, quelle est la caractéristique de cette clientèle?
Alors, je ne peux pas faire un seul type de clientèle. On va dire que je peux te faire deux grands groupes.
D'accord.
Tu as le groupe de gens qui, des collectionneurs avertis, qui ont toujours eu des autos, qui les connaissent très bien, qui connaissent le marché, qui en ont dans les garages, qui vont être capables d'ailleurs d'acheter des autos parfois au-dessus du prix du marché si jugés, on va dire, dans un superbe état.
Bien sûr.
Ce sont des gens qui connaissent, ce sont des gens qui touchent un peu en mécanique. Donc là, c'est un public averti. Ouais. Et d'un autre côté, tu as... je vois des nouveaux profils se dessiner. Ce sont des gens qui n'y connaissent pas grand-chose dans les voitures de collection.
D'accord.
Qui viennent de prendre la retraite et qui se disent « Tiens, pourquoi je ne m'inscrirais pas dans un club ?» Et pourquoi je n'irai pas rouler en voiture ancienne? Alors ça, c'est des profils qui sont totalement différents parce que déjà, quand ils arrivent au rendez-vous, ils n'ont jamais mis les pieds dans un véhicule ancien pour certains.
Bien sûr.
Le passage des vitesses, la tenue de route, l'assise, tout ça, c'est vraiment très différent. Et là, ça touche plutôt, alors je dis des gens qui partent à la retraite, mais peut-être même un peu avant. Des gens qui ont peut-être 50 ans, qui veulent s'acheter des véhicules qu'avaient leurs parents dans leur jeunesse. Et ça, c'est un profil de client qui est moins connaisseur, mais qui est plus méfiant.
D'accord.
Qui est plus méfiant, je prends l'exemple de cette très belle MG qu'on a à côté de nous. Oui, quand on va la bouger, il y aura une goutte d'huile.
Oui,
et j'ai envie de dire, c'est normal. C'est-à-dire qu'en gros, si elle ne perd pas d'huile, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un d'averti, qui a l'habitude des véhicules de collection, il sait pertinemment qu'une anglaise, ça fuit. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais eu de véhicule de collection et qui vient pour le rendez-vous et qui vous dit il y a une goutte, là, il va s'affoler. Parce que justement, c'est la méconnaissance en fait, de la collection qui fait qu'ils sont beaucoup plus sur la défensive quand ils achètent une voiture.
D'accord.
Et donc, il faut avoir deux approches différentes, c'est-à-dire qu'il faut les rassurer, il faut leur expliquer, il faut vraiment aller dans le détail pour leur faire comprendre ce que c'est qu'un véhicule de collection.
Bien sûr.
À contrario d'un collectionneur averti qui vous dit « Oh ben oui, ben elle fuit un peu au joint spi, ben ok, très bien, c'est normal. » Donc pour moi, c'est deux grands profils. Et après, donc ça, c'est les profils, on va dire, plutôt... pas forcément sur les catégories socio-professionnelles, mais sur, comment dirais-je, sur la connaissance du véhicule. Et après, on a des personnes... au niveau de l'âge, on commence à avoir des collectionneurs de plus en plus jeunes parce que, bah, justement, avec l'arrivée des Youngtimers,
d'accord.
Tu as des gens qui veulent acheter 205 GTI, Golf 1 GTI, qui n'ont pas du tout le type profil de collectionneur qui a 50 voitures alignées dans son garage. Ouais. Donc, on a des gens de plus en plus jeunes. Enfin, moi, c'est ce que je perçois dans mes ventes.
D'accord. Et comment tu l'expliques, ça, justement, à part l'apparition des Youngtimers et... Est-ce que tu es un peu vintage? Comment ça se fait que généralement, on approprie les véhicules de collection à des personnes un peu plus âgées?
Parce que dans les véhicules de collection, tu as quand même deux grands, on va dire, t'as, en ce moment, tu as deux grandes époques. Tu as les années 60-70, parce que ce qu'il y a avant, ça n'intéresse plus personne, parce que les collectionneurs sont devenus trop âgés. Les gens qui achetaient à l'époque des tractions, tout ça, ils ont vieilli maintenant.
Bien sûr.
On s'éloigne de plus en plus, en fait, si tu veux, du début de l'histoire.
D'accord.
Donc, les véhicules d'avant-guerre, les jeunes, ça ne les intéresse pas. Donc les collectionneurs âgés, tu en as de moins en moins. Par contre, on surfe énormément sur le vintage. Si tu prends là Renault, ils vont sortir une Renault 5.
Oui.
Voilà. Typiquement, le gars qui a 50 ans, quand il était jeune, sa mère, elle a une Renault 5 ou je sais pas, une 205 GTI. Et ça leur a redonné un peu la passion. Mais ils s'arrêtent vraiment aux années 80. Hein.
Oui,
Attention.
d'accord.
Hein.
Oui, très bien.
Donc on va pas avant. Mais je pense que c'est aussi cette société qui surfe sur le vintage. Ça marche énormément. Et je pense que c'est ça aussi qui a suscité un peu plus l'intérêt des gens, je dirais aujourd'hui, qui ont 40, 42 ans, qui sont fous de 205 GTI, puis alors qu'ils les connaissent mieux que toi. Hein. Ils te connaissent les dates de châssis, les codes options. Moi, j'en connais pas mal, mais bon. Et je pense que c'est le fait de surfer là-dessus
D'accord.
qui a fait que la tranche d'âge un petit peu a baissé. Et puis après, tu as aussi des gens qui investissent. Bon, ben ça, c'est complètement différent, mais tu as de plus en plus de jeunes businessmen qui investissent dans les véhicules de collection comme tu investirais dans les tableaux.
Oui, bien sûr.
Et ça, tu peux pas aller contre ça. Et on voit de plus en plus parce que, ben, mine de rien, un véhicule de collection et un tableau, tu as moins de taxes que si tu achètes des appartements. Ou...
Bien sûr, ouais, c'est
Donc ça
beaucoup moins
devient une
taxé,
niche
bien
quand
sûr.
même d'investissement, quoi.
D'accord. T'es pour ou contre d'ailleurs cette stratégie d'investissement dans les véhicules?
Moi, en fait, c'est, si tu veux, je pour ou contre, je n'ai pas à l'être ou pas, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que tu vois, en 2017, c'est ça typiquement qui a fait monter les prix. Pourquoi? Parce que dans les ventes aux enchères, tu avais des gens étrangers qui étaient capables de mettre des sommes folles. Je te donne un exemple, un 250 GTO à 45 millions d'euros. Bon, alors très très bien, c'est une 250 GTO, il n'y en a pas eu beaucoup, c'est une très belle voiture. Mais est-ce qu'on se demande quand même dans notre esprit, est-ce que ça vaut vraiment 45 millions d'euros? Et
C'est
malheureusement,
sûr.
ces investissements qui ont fait monter les choses. Et puis après, ça s'est calmé. Alors tout le monde dit oui, alors le marché se casse la figure. En fait, non. On tend vers des prix un peu plus cohérents.
Bien sûr.
Si tu es allé à Paris, à Rétromobile, il y avait des. Parce que dans le marché des autos, la Ferrari, ça marche toujours. Des modèles comme des 250 California Spider, tout ça, c'est des autos quand même qui restent très hautes, mais tout le monde
Bien
dit, ouais,
sûr.
mais ça a vachement baissé. Oui, non, mais c'est juste que ça avait vachement monté, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
Donc j'ai l'impression que les prix retrouvent un petit peu quelque chose de logique.
D'accord.
Donc non, je suis pas forcément. Je dis pas qu'il faut pas investir, mais je trouve que ça serait dommage que du coup, ça dénature le marché
Bien sûr,
et
les
que
prix du
ça
marché.
fasse des choses délirantes. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais.
D'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et donc, du coup, cette clientèle, comment tu as réussi, toi, de ton côté, à la développer? Donc tu disais que tu avais toujours un pied quand même dans l'automobile, etc. Quand tu as lancé ton activité, donc tu avais une quinzaine de voitures voilà, dont tu devais t'occuper, comment tu as réussi à développer cette clientèle au fur et à mesure?
Alors, moi, j'ai mis en place, on va dire, un système de fonctionnement qui exclut le démarchage.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, je ne prendrai jamais une annonce sur le Bon Coin. J'appellerai jamais un particulier pour lui dire bonjour, vous voulez venir chez Autolégende? En fait, je sais pas faire. Enfin, c'est pas que je sais pas faire, mais c'est que j'en ai pas envie. Et moi, mon sourcing, je le fais quand je vais sur des événements,
D'accord.
quand je vais rouler le week-end, parce que les gens, ils voient bien que, outre le côté mercantile, je suis passionnée.
Bien sûr.
Donc, ça me fait plaisir de parler de leurs autos, et je rencontre donc des gens en sortie club.
D'accord.
Donc je fais partie par exemple d'un club de traction, donc ben, un jour je sors, on fait l'assemblée générale du club et il y a un monsieur qui vient s'asseoir à côté de moi qui me dit « Virginie, écoutez, j'ai une traction cabriolet à vendre, je ne sais pas faire tout seul, est-ce que vous voulez vous en occuper ?» Voilà. Et après dans le club, le numéro circule.
Bien sûr.
Alors il y a des clubs où je me retrouve où j'ai vendu déjà 15-20 autos. Après j'essaye aussi d'aller au rassemblement. Ici sur la Côte d'Azur, tu as le quatrième dimanche du mois, c'est à Saint-Laurent, tu as le
Oui.
premier, c'est à Cabris, alors j'essaye d'aller y faire un saut.
D'accord.
Parce que je rencontre toujours des gens sympas et que, en plus, moi, ma connaissance, je la développe en discutant avec des connaisseurs, avec des collectionneurs. C'est comme ça qu'en fait, et j'aime bien ce contact-là. Donc, c'est même pas, comment dirais-je, de me dire, bon, aujourd'hui, faut que j'aille faire du sourcing et tout ça. Ça me fait plaisir, je discute, bois le café, même des fois, je reste. En plus, là, je me suis acheté un véhicule de collection, donc je monte avec.
D'accord.
Après, du coup, de fil en aiguille, sur les concours d'élégance, par exemple, du coup, on m'a appelé.
D'accord.
On m'a demandé de venir, d'être membre du jury. Donc, j'ai fait Saint-Jean-Cap-Ferrat. J'ai fait les Légendes de Nice. C'est pareil, pendant cet événement, pendant 2 jours, tu rencontres des gens, tu discutes. Ils voient quand même que tu es passionné. Parce que je veux dire, ce n'est pas quelque chose que tu peux inventer.
Bien sûr.
Et après, c'est que du bouche à oreille. C'est
D'accord.
le garagiste qui va donner mon numéro, le contrôleur technique. J'ai vendu la voiture de monsieur un tel, il a donné mon numéro à madame un tel. Voilà. Et il y a que comme ça. Je force pas les gens, en fait. Je n'aime pas faire de démarchage. Je pars du principe que si les gens me connaissent et qu'ils veulent que passer par moi pour vendre leur voiture, ils m'appellent.
D'accord.
Voilà.
Ok, très bien. Et donc du coup, par exemple, quel type de service tu proposes actuellement dans ton entreprise? Explique-nous un petit peu.
En fait, on va dire que l'intitulé, c'est vendre son automobile de collection. Mais
D'accord.
vendre son automobile, ça ne veut pas dire venez, je fais 3 photos, on met l'annonce sur le bon coin et puis je vous rappelle quand j'ai un client. Il y a toute une démarche. Alors, je peux te donner un exemple concret que j'ai fait aujourd'hui avec une TR4, donc une
D'accord.
Triumph. Une dame dont le papa était malade, malheureusement, qui avait cette auto de collection. Elle arrive, elle ne connaît pas la voiture, elle ne connaît pas le milieu, elle ne connaît pas le monde, elle n'habite pas ici. Elle veut vendre cette voiture qui est à son papa. Elle me trouve sur Google, elle tape véhicule de collection Cannes, elle me trouve, elle m'appelle, elle m'explique, elle me dit, voilà, moi j'ai une voiture de collection dans mon garage, je ne sais pas comment s'en sert, elle était à mon papa, je ne sais pas comment faire. Bon, moi je propose quoi? Je viens. Je
D'accord.
viens, on regarde ensemble. Je viens avec un booster, on essaye de démarrer la voiture, on essaye de lui trouver une solution.
Bien sûr.
On parle pas, elle m'a pas encore dit je vous fais un mandat. C'est là, il faut l'aider en fait. Elle est toute seule, elle ne sait pas comment ça marche. De fil en aiguille, on trouve le souci, on résout le problème, la voiture démarre. Deuxième service, Virginie, est-ce que vous voulez vous occuper de la vente de mon véhicule? D'accord, ça en passe par un contrôle technique, par une vérification de la voiture sur un pont, par un reportage photo. Donc aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous. J'étais là, j'ai assisté au contrôle. Du contrôle, il m'en a découlé 4 points qu'il fallait que je fasse voir parce que pour moi, alors exemple, un roulement de roue, l'échappement qui s'était détaché,
D'accord.
qu'est-ce qu'on avait, une charnière de portière qui était cassée et je pense à un mauvais réglage des carburants. Donc là, mon rôle, c'est de dire, écoutez, moi, je vous conseille, dans le cadre de la vente, de faire ça. Et là, tu as encore un handicap, c'est que la dame, elle te dit, mais moi, je ne suis pas d'ici, je connais personne. Comment je fais? J'ai des contacts dans des garages, je l'accompagne dans le garage, j'explique au mécanicien son problème, on
D'accord.
prend rendez-vous, on déposera l'auto, j'ai fait les photos et je l'accompagne comme ça. Après, je vais m'occuper de la vente et jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, mes services, c'est étude de marché d'un véhicule, rendez-vous contrôle technique, proposer des solutions d'amélioration ou pas dans le cadre de la vente
Bien
s'il
sûr.
faut. Faire le reportage photo, faire les recherches historiques,
D'accord.
commercialiser la voiture, s'occuper bien évidemment de répertorier tous les appels, trier les clients pour au final arriver avec un client qui est potentiellement un acheteur.
D'accord.
C'est-à-dire éluder les gens qui appellent pour rien souvent ou qui appellent pour juste faire un peu de tourisme. Parce que la personne qui te confie sa voiture, elle n'a pas envie. Alors là, quand tu n'en as qu'une, ça va, mais quand tu en as 15 dans un garage, elle n'a pas envie d'avoir toutes les semaines des gens. Faire le tri. Arriver à comprendre l'intention d'achat de la personne en face et d'être sûr de ton coup quand tu vas l'amener que cette personne elle est acheteuse.
C'est ça, exactement.
Et enfin, accompagner sur la cession, accompagner sur la livraison s'il y a
D'accord.
besoin. Donc c'est vraiment, si tu veux, toute une. Ça commence au premier rendez-vous et ça finit, la
À la
voiture elle
vente.
part. Voilà.
Oui, c'est ça, en fait.
C'est
D'accord.
pas simplement un rôle d'intermédiaire, comment dirais-je, basique. Moi, j'essaye d'aider les gens, j'essaye de leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'il faut faire sur leur voiture pour la vendre. Certaines, des fois, ils ne sont pas là. Ça m'arrive de vendre des voitures, j'ai les clés du garage, j'ai tout. Je vais, je viens, je les amène au contrôle, les gens me font confiance, donc je rentre chez eux. C'est une approche qui est beaucoup plus humaine et c'est pour ça que j'ai choisi de me mettre toute seule. Parce
D'accord.
que ça ne rentrait pas pour moi dans le cadre d'un site de vente en ligne où je trouve ça un peu trop impersonnel.
Bien sûr.
Et dans le dépôt-vente, pour moi, il n'y avait pas cette démarche humaine. Quand tu as quelqu'un qui vient acheter une voiture dans un dépôt, tu as la voiture qui est posée là, mais tu ne sais pas son histoire. Quand tu présentes un acheteur, un vendeur, deux passionnés, et moi, c'est toujours des histoires de passionnés.
Bien sûr.
Tu as une interrelation entre eux. Là, je viens de vendre, par exemple, une Alpine à 310 cette semaine. Là, on vient de créer un groupe WhatsApp avec l'acheteur, le vendeur et moi. Et tous les jours, on discute. Alors, j'ai fait ci sur la voiture, j'ai fait ça parce qu'il y avait des petites choses à faire. Et les gens se suivent. Enfin, je veux dire, la relation continue.
Bien sûr.
Voilà. Et tout à l'heure, tu posais la question de savoir comment je trouve mes clients. Souvent, je vends deux fois la même voiture. Parce que je l'ai vendue à un premier. Et puis lui, il va rouler 2 ans avec.
Ah oui, d'accord.
Il va vouloir changer. Mais il va me rappeler parce qu'il sait que je connais la voiture. Donc l'Alpine A310, là, ça fait la deuxième fois que je la vends.
Incroyable. D'accord.
C'est la fidélité, envie de te dire. Et donc, c'est la façon de travailler en fidélité, en accompagnement, avec avec une relation le plus humain possible.
Bien sûr.
Que tu arrives à... Et puis moi, je ne saurais pas faire autrement, en fait, j'ai envie de te dire. Parce que moi, je suis incapable de faire 3 photos d'une voiture, ne pas la voir dessous, ne pas savoir ce qui se passe dedans.
C'est ça.
Je ne peux pas vendre une voiture si je ne la connais pas.
C'est sûr. Et encore plus une voiture de collection, j'imagine.
Mais c'est pas ça, c'est que même si tu veux être le plus transparent du monde possible, demain, la personne te l'achète, elle va faire 100 mètres, elle va casser l'embrayage. Même si toi, tu as apporté les meilleurs soins que tu as pu à la voiture, c'est des choses que tu ne peux pas prévoir.
Bien sûr.
Alors autant ce que tu peux prévoir, essaye de le faire correctement. Voilà, tu la mets sur un pont, tu regardes où est-ce qu'elle a de la corrosion. S'il y en a, tu le dis. S'il n'y en a pas, tant mieux. Il y a des choses qui t'interpellent. Tu vois des pièces qui sont vieillissantes, comme les cylindres blocs. Tu dis, ça vaut rien, faites-le. Essaye de te donner le maximum de chance pour pas que ça se passe mal après.
Bien sûr.
Justement, dans la typologie de clients qui n'y connaissent pas grand-chose, là, ceux-là, ils sont dangereux. Parce qu'eux, certains, ils partent du principe que la voiture de collection, elle sort, c'est comme une Dacia Sandero avec les bip-bip et puis qui sort du garage. Et que rien ne va pouvoir arriver. Mais si, tu vas devoir régler tes carburateurs peut-être dans un an.
Bien sûr.
Tu vas redevoir faire des réglages de culbuteur parce que c'est pas acté, c'est pas posé, c'est pas quelque chose qui est là et ça, c'est quelque chose qui évolue. Ça, c'est plus
avec
délicat. Avec des gens qui connaissent moins bien la collection, ça, c'est délicat.
D'accord, très bien. Et par exemple, quel a été ton plus grand défi en tant qu'entrepreneuse du coup ?
Alors là, je dois dire que c'est un des derniers. Vendre une voiture avec l'acheteur et le vendeur non présents. Parce que tu as en mandat une auto, donc tu as les clés du client, de sa villa. Et puis, tu as en face de toi quelqu'un qui te dit, Virginie, je la prends, je vous fais confiance, mais je ne viens pas la voir. Et moi, je suis toujours partisane de recevoir mes clients.
Bien sûr.
Parce que comme je leur dis, moi, je préfère que vous la voyez. Mmh. On en discute. Plutôt qu'après, quand vous la recevez, vous me dites, oui, mais il y avait ça. Il fallait venir. Et déjà, en soi, c'est un défi quand ton vendeur n'est pas là parce que tu es en responsabilité de la voiture, tu viens chez le client. Et là, en plus, à cause de ça, tu la vends à quelqu'un qui ne vient pas. Donc, en gros, tu es seul. Alors, ce n'est pas la question d'être seul, ça ne me fait pas peur. Mais tu dois à la fois, tu as ton obligation de résultat, entre guillemets, via ton vendeur parce qu'il te confie les clés de chez lui.
Bien sûr.
Il te confie tout. Et d'un autre côté, tu as ton vendeur qui te fait confiance parce qu'il s'est appuyé sur ton dossier photo. Et t'espères juste que quand il va recevoir la voiture, il va être content.
Bien sûr.
Et j'ai fait ça en une semaine. En plus, j'étais en vacances, donc je n'étais pas sur place. Donc, j'ai réussi à faire ça en une semaine et j'étais contente parce que pour moi, je me suis dit, là, tu n'as besoin de personne. Mais par contre, c'est vrai que... Parce que mine de rien, quand tu as un acheteur et un vendeur, toi, tu es là, mais il y a quand même un dialogue entre les deux. Il y a de la présence. Ça peut autant rassurer l'acheteur que le vendeur, d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr.
Là, il faut que tu rassures le vendeur parce que tu lui dis qu'il y a quelqu'un qui a acheté sa voiture, mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Et l'acheteur, tu lui dis que ton client, il ne vit pas en France. Enfin, ils peuvent vite s'inquiéter.
Bien sûr, oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai. Puis j'imagine que les collectionneurs, généralement, ils ne veulent pas vendre leur voiture à n'importe qui non plus.
C'est pour ça que moi, je me permets de dire que je choisis mes clients acheteurs. Des fois, j'ai plusieurs profils sur une voiture d'acheteur. Mais je vais faire une sélection. Je vais faire une sélection parce que je vais être honnête entre quelqu'un qui me dit « je l'achète pour me faire des sous et de la revendre » et quelqu'un qui me dit « j'ai envie de rouler dans une voiture de collection, je ne connais pas, j'ai envie de découvrir, je veux m'inscrire dans un club. » Enfin, moi, c'est tout fait, hein, l'histoire. Hein. Enfin, voilà, parce que je suis passionnée. Tiens, une M3 E30 qui nous passe devant. Très rare. Je choisis. Et puis, je choisis aussi en fonction du profil. Parce que Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des clients que je juge potentiellement dangereux dans le sens où la méconnaissance fait que la méfiance devient grandissante. Et puis, même si tu peux donner tout ce que toi, tu veux bien donner, ben, des fois, tu te rends compte que c'est compliqué. Puis moi, je trouve ça super qu'une voiture, elle aille d'une collection à une autre et que les gens partagent. Là, la vente de l'Alpine, c'est exactement ça. Elle a été achetée par un grand collectionneur. Et elle passe maintenant entre les mains d'un autre grand collectionneur qui sont passionnés tous les deux de la marque
D'accord.
Alpine. Et moi, je trouve ça, moi qui aime l'histoire, je trouve que là, du coup, le côté transmission de patrimoine, c'est génial.
D'accord.
Donc, donc oui, je choisis, ouais.
D'accord. Et qu'est-ce qui te motive pour te lever le matin, en fait, pour simplement travailler pour toi?
Entendre des histoires de nouvelles voitures, me dire qu'aujourd'hui je vais trouver dans une grange ou que je vais trouver que je vais quelqu'un qui va m'appeler pour me dire voilà, ça fait 40 ans que j'ai cette voiture et puis je peux plus m'en occuper, je vais la vendre. C'est le côté histoire, moi, qui me plaît.
D'accord.
Essayer aussi de nouvelles autos et puis te dire que tu vas t'asseoir là où nous étions assis tout à l'heure dans la MG, elle est de 50, hein, 54,
Bien
donc
sûr.
tu te doutes bien qu'il y a des gens qui se sont posés dedans avant toi. Donc c'est ce qui me motive, essayer de toujours trouver des choses intéressantes, des voitures intéressantes, c'est-à-dire soit à faible kilométrage, soit des voitures qui ont été produites à peu d'exemplaires, soit des voitures qui ont appartenu à quelqu'un de célèbre.
Bien
Enfin
sûr.
voilà, c'est ça qui me motive. Et ce qui me motive aussi, c'est de me dire, je vais rentrer une nouvelle voiture que je ne connais pas, et je vais apprendre sur le modèle,
Bien sûr.
je vais apprendre de nouvelles choses. En fait, moi, j'ai une soif d'apprendre qui est difficile à combler, donc c'est vrai que plus j'en apprends, mieux je me porte. Donc c'est ça qui me motive vraiment. C'est la connaissance de
La
l'automobile.
connaissance, d'accord. Très bien. Et à quel, donc du coup, on a dit tout à l'heure, on a parlé d'un défi auquel tu avais dû faire face. Est-ce que tu as fait face vraiment à une grosse contrainte? Et oui, est-ce que tu as réussi à la surmonter, cette contrainte?
Une grosse contrainte. Alors je peux en avoir quelques-unes. Alors les contraintes, ce que j'aime pas. Parce que c'est toujours délicat, c'est tu vends une auto, tu passes le contrôle, tu avais un contrôle récent et là tu as une panne qui se déclare.
D'accord.
Énorme contrainte parce que toi tu as fait le max et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu peux casser une boîte en sortant du garage. Et moi je suis toujours embêtée vis-à-vis des clients
Bien sûr.
parce que tu es obligée de trouver la solution déjà de 1. Alors déjà de 1, il faut que tu dises à ton acheteur, à ton vendeur que. La panne qui est là, ta voiture, elle est vendue, il faut trouver la solution. Alors, c'est toujours un petit peu délicat parce que tu as peur qu'on n'y arrive pas ou que ça. Tu sais, dans la collection, ça va très vite. Hein. Tu peux avoir un petit problème comme ça peut vite devenir.
Oui.
Ça, c'est les choses qui me font peur. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait de passer les contrôles techniques au plus près de la vente.
D'accord.
Mais parfois, tu as des gens qui viennent avec des autos qui ont 1 an ou 1 an et demi de contrôle. Ils te disent, écoutez, on la passera quand. Alors, oui, sauf que si on a une cacahuète au milieu. Donc, c'est toujours un peu ça qui m'inquiète, entre guillemets.
D'accord.
C'est de trouver que c'est quelque chose se déclare sur la voiture qui n'était pas prévue et qu'elle est vendue. Et voilà.
D'accord, très bien.
Ça, c'est les contraintes. Après, en termes de faire les choses, de ça, je n'ai pas l'impression d'avoir des contraintes. Non,
D'accord.
c'est toujours moi vis-à-vis du client.
D'accord, oui, très bien.
Pas vis-à-vis de moi. Moi, je me débrouillerai
Je vois
toujours.
très
C'est
bien,
pas
oui,
la
bien sûr.
question.
Et donc, du coup, en termes d'investissement, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un véhicule en dessous de 50 000 euros, un véhicule en dessous de 100 000 et un véhicule vraiment avec budget illimité?
Alors, en termes d'investissement, je pense que tu vois bien que les véhicules Youngtimers ont la cote.
Bien sûr.
Je vais pas te dire d'acheter une Triumph TR2. Parce que malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui marcherait. Alors, en dessous de 50 000, moi, je serais partagée entre deux modèles, la Golf 1 GTI
D'accord.
ou la 205 GTI. Mais ouais, la Golf 1 GTI,
D'accord, très
ça
bien.
reste une valeur sûre. En plus, les premières avec les petits pare-chocs. Ça, c'est un véhicule que si tu trouves un modèle peu kilométré avec un historique complet, a priori, tu ne devrais pas perdre d'argent.
D'accord.
Voilà, ça c'est une valeur sûre. Alors j'ai dû en choisir une, hein, mais tu as aussi des Porsche hein, à ce prix-là. Mais la Golf 1 GTI, ça le vend en poupe en ce
Oui,
moment.
bien sûr.
Donc voilà. En dessous de 100 000, alors entre 50 et 100, moi je dirais, je basculerais sur une BM.
D'accord.
Une M3. Alors on a vu hein, les cotes. Alors maintenant les E36 sont en train de monter, 40-45.
Oui.
Et la E30, c'est vrai qu'elle. Alors surtout si tu prends une E30 avec des. Comment dirais-je des. Il y a des sorties spéciales, ils ont fait des exemplaires spécifiques. Ça, c'est des véhicules qui ne perdent pas.
D'accord.
Ça, c'est des véhicules qui ne perdent pas. Une belle M3 E30 avec un historique. Alors, bien évidemment, avec un historique clair, un véhicule pas bidouillé, qui n'a pas fait de piste, voilà. Là, a priori,
bien sûr.
Tu devrais t'en sortir correctement. Puis, alors, d'accord. Si tu as le full budget, j'ai envie de te dire, si tu as le full budget, j'hésiterai entre une Ferrari, une Porsche. Honnêtement, une Ferrari, un 250 GT ou un 275, c'est des modèles qui, a priori, ne devraient pas perdre.
D'accord.
Et c'est des véhicules qui sont toujours autant prisés dans les ventes aux enchères.
Bien sûr.
Pour peu qu'elles aient eu une histoire intéressante, si tu peux te payer, je ne sais pas moi, la 275 de... Ben, comme il y avait eu, tiens, en 2017, d'Alain Delon. Tout de suite, ça fait des prix qui montent parce qu'elle appartient à une personnalité.
Bien sûr.
Donc oui, en termes de très gros investissements, je ne m'éloignerai pas trop de Ferrari parce que c'est une valeur sûre.
D'accord.
Pour peu que l'auto elle ait un bel historique et tout, c'est sûr que là...
Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous donner, par exemple, ton top 5 automobile ?
Mon top 5 automobile, oui. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup de voitures, c'est compliqué, mais... en premier, je dirais la Bugatti 35. Donc,
d'accord.
C'est une Bugatti typée course, année 25-26, si je ne me trompe pas, ou peut-être que je me trompe avec la 37, mais c'est des autos que j'aime beaucoup parce que je trouve que pour l'époque, elles avaient vraiment énormément d'avancées.
Bien sûr.
Et puis, elles ont une ligne terrible. Donc voilà, un modèle 35 ou un modèle 37, tout du moins une Bugatti typée sport.
D'accord.
Dans mon top 5, j'oublie pas la Jaguar Type E, parce que mine de rien, c'est une auto que j'aime beaucoup. Alors moi, je la préfère en coupé. Hein.
D'accord.
Donc une Jaguar Type E série 1 coupée, ça c'est vraiment un modèle que je trouve fabuleux parce que le design est fabuleux. Tu peux la regarder de n'importe quel angle. La voiture est juste magnifique. Il n'y a pas un endroit où ça louvoie. J'aime beaucoup aussi les vieilles Aston, et particulièrement les DB5, parce que je trouve que la ligne, alors j'aime toujours autant les Aston, même de maintenant, hein, mais je trouve qu'elles ont une ligne fabuleuse,
c'est
élégant, voilà.
Oui, bien
c'est très élégant. Quatrième auto que je trouve fabuleuse juste à regarder, c'est la 250 GTO. Elle est juste impressionnante, ça n'a rien à dire. Ah, je dirais que ça se ressemble même avec le design de la Type E.
D'accord.
Mais c'est vraiment une auto quand tu es devant, voilà quoi, c'est juste fabuleux quoi, et performance et tout ça.
Bien sûr.
Et après, une voiture qui est un peu moins iconique et peut-être moins connue et peut-être ouais, qui est moins chère aussi, mais que j'adore, c'est la Simca 1200S. C'est un petit coupé Bertone que pas beaucoup de gens connaissent, qui a une ligne fabuleuse. C'est vraiment une très très jolie auto. À se renseigner sur internet, vous tapez Simca 1200S coupé Bertone.
D'accord.
C'est un véhicule qui tourne dans les 30 000 euros aujourd'hui à l'achat et qui a été designé par Bertone et qui a vraiment une coupe super sympa.
D'accord.
Voilà.
Et donc du coup, comment tu vois l'évolution en fait de l'automobile dans les années à venir en fait, surtout en termes de.
Alors
collection.
Écoute, si j'avais une boule de cristal, je te dirais que je vois plein de choses. Le problème qu'il y a, c'est qu'on peut pas forcément voir. Bon, on avait vu quand même en 2023 que 2024 allait être compliqué, mais on ne peut jamais savoir. On ne peut jamais savoir, c'est un peu le problème, on a du mal à se projeter.
Bien sûr.
Parce que moi, je le vois, si j'analyse mes chiffres, mon profil de véhicule, mon profil d'acheteur, mes ventes, entre les trois années, il y a tout qui est différent.
D'accord.
Donc, j'ai envie de te dire que j'espère que la situation économique actuelle va évoluer dans le bon sens parce que je pense que ça aussi, ça freine quand même. Donc, je pense qu'on va aller vers une bonne évolution, entre guillemets.
Bien sûr.
Je pense que les Young Timers auront toujours autant la cote, si ce n'est plus. Je pense que ça devient de plus en plus compliqué pour les véhicules d'avant les années 50,
d'accord,
toutes magnifiques qu'elles soient. Ça je le vois bien et là je constate, alors moi c'est quelque chose que je vois là depuis début 2024, Est-ce que c'est une tendance qui va s'échelonner? Je ne sais pas. D'un autre côté, tu as des autos qui sont au prix et qui ne s'en vont pas, alors que dans un marché comme 2017-2018, elles seraient parties directes.
Bien sûr.
Alors là, tu ne comprends pas. Et d'un autre côté, tu te retrouves avec des autos, avec des exemplaires de modèles qui sont 10 ou 20% plus chers que le prix du marché parce que tu as entre les mains quelque chose d'exceptionnel.
Bien sûr.
Et là, ça se vend à une vraie vitesse. Tu es beaucoup plus cher que le marché, mais les gens sont prêts à mettre... Et je ne parle pas que des véhicules, des Ferrari, des Porsche. Hein.
Non, bien sûr.
Là, je te parle d'Alpine, je te parle du Auto Bianchi, des modèles qui sont en dessous de 40 000 euros, mais sur lesquels tu trouves des exemplaires d'exception. Et là, les gens sont prêts à mettre le prix. C'est-à-dire qu'ils sont prêts même voire à mettre le double.
Oui, c'est ça.
Et tu ne comprends pas. Et à côté de ça, tu as des véhicules qui sont au prix du marché et qui ne se vendent pas. Alors, est-ce que cette tendance, elle va perdurer? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on est descendu aussi bas. Enfin, on est descendu bas. On est en termes de... Ce n'est pas qu'on est descendu bas en termes de prix. C'est quand on voit bien que l'intention d'achat, elle est moindre. Enfin, on voit bien que les gens, ils hésitent plus à acheter. Les prix ont retrouvé un cours normal sur certains modèles. Mais le problème qu'on a actuellement, c'est plutôt la capacité des gens à acheter, parce que des voitures à 3, 4, 5 millions d'euros, les gens, ils n'ont pas de problème. Là, sur ce marché-là, si tu veux, c'est un marché qui est encore différent. Les gens ont le potentiel. Par contre, tout ce qui est en dessous, c'est tous les gens qui sont touchés par l'inflation, des choses comme ça, qui veulent se faire plaisir. Et sur les investissements, là, les gens, en ce moment, ils ne savent pas trop où ils vont.
D'accord.
Donc, ils attendent. Donc, je pense que cette tendance, elle va quand même au fur et à mesure s'inverser, parce que là, on voit que les taux de crédit remontent. J'espère que voilà, que ça va aller dans le bon sens. Mais c'est vrai que dans la collection, on peut jamais trop savoir
en
avance.
C'est sûr. Et est-ce que tu penses que du coup, les nouveaux modèles, donc comme par exemple tout à l'heure, on parlait de la Renault 5 qui a été restylée, est-ce que tu penses que ça a un impact positif justement sur la cote de l'ancienne?
Bah oui, je te prends l'exemple des deux chevaux, des Méhari, qui sont petit à petit électrifiés.
Bien sûr.
Bah, ça fait remonter un peu la cote d'amour de ces voitures. Là, ils vont sortir la Renault 5. Je te file mon billet que, à mon avis... alors, ce n'est pas des voitures. Hein. Je prends une Renault 5 TL, hein, basique. Bon, je la prends dans une couleur sympa. Allez, orange ou jaune. Les premières sorties, c'est quelque chose qui ne dépasse pas normalement les 15 000 euros. Mais là, je pense que oui, ça va leur donner un coup de peps. Parce que... Alors, soit des nouveaux modèles qui sortent, soit l'électrification.
Bien sûr.
Là, tu vois le nouveau combi, par exemple, l'idée.
Oui.
Bon, ben, ça relance le marché de l'ancien combi. Parce que les gens, du coup, ils se replongent dedans.
Exactement.
Donc là, je pense que quelqu'un qui a vu sa mère rouler en R5, il se dit, tiens, il en voit une avec des couleurs flashy, ça va peut-être...
D'accord.
Ouais, ça apportera, de toute façon, donc tu parles d'un modèle, que tu reparles d'un modèle il y a X temps, c'est toujours bénéfique.
Bien sûr.
Pour ce modèle.
Est-ce qu'à tout hasard, tu aurais tout simplement des ressources, des livres ou tout simplement un mentor à nous conseiller pour tout simplement apprendre des voitures de collection et de prestige?
Alors, tu ne peux pas tout avoir dans la même personne, dans le même bouquin.
Bien sûr.
Ça, ce n'est pas possible. Moi, j'ai plusieurs personnes autour de moi, plusieurs collectionneurs, connaisseurs.
D'accord.
Qui me donne ces richesses. Moi, si tu veux, quand je cherche un détail important sur une auto, je ne vais jamais sur Internet.
D'accord.
C'est les bouquins ou les connaissances. Et là, les connaissances, ça passe par, dans mes connaissances, un mécanicien qui a travaillé 30 ans chez Citroën.
OK.
Des gens qui ont travaillé chez Renault. Ou des gens qui ont aussi, dans mon milieu, des gens qui ont travaillé sur des Bugatti à l'époque.
D'accord, très bien.
Voilà, c'est toujours les gens qui ont appartenu à des grosses firmes qui ont ce savoir. En termes de livres, mon livre de chevet, c'est le Magnum Bugatti.
D'accord.
Je pense que là, si tu veux connaître l'histoire de Bugatti dans les détails et les modèles, c'est top. Après, tu trouves en commerce toujours des choses. C'est dommage, j'aurais dû le prendre avec moi, mais par exemple, sur les Youngtimers, ça se fait beaucoup, sur la 205 GTI, la Golf 1. Il y a un gars qui fait des bouquins où c'est super bien fait parce que dedans, tu trouves le numéro de châssis, les codes options, les couleurs, les codes couleurs. Ça, d'accord. Il en manque. Je trouve qu'aujourd'hui, sur le marché, il en manque.
D'accord, très bien.
Et dedans, tu trouves tout. Tu es capable de dire que cette année-là, cette Golf 1-là, elle est sortie avec ce modèle de châssis-là. Et voilà. Et ça, je trouve que Malheureusement, on en manque, surtout sur les véhicules anciens. Alors moi, quand je me retrouve confrontée à des recherches sur des véhicules des années 50, eh ben, je suis obligée d'appeler à droite à gauche, ça m'arrive d'appeler des musées.
Ah oui, d'accord.
Et oui, parce qu'il y a des fois, tu n'as pas l'info.
Bien sûr.
Tu n'as pas l'info. Et quand je fais les recherches historiques, ben là, j'ai fait une recherche sur une traction cabriolet de 1900. Elle est 35.
Oui.
Pour retrouver le premier propriétaire, bon, on t'oublie. Mais j'ai retrouvé celui qui l'a restauré, qui m'a donné le numéro de celui qui l'avait avant, qui m'a donné le numéro de... Et je suis remontée jusque dans les années 80, comme ça. Mais c'est du temps. Donc, je n'ai pas vraiment de revue. Je n'ai pas vraiment de bouquin. J'ai juste envie de dire qu'il faut s'approcher des personnes qui ont la connaissance.
Bien sûr.
Et il faut s'entourer de gens qui ont vécu les choses, qui ont travaillé sur les voitures. Mmh. Voilà.
D'accord, très bien.
C'est le plus important.
Et est-ce que, donc en termes d'objectifs professionnels, est-ce que tu peux nous en partager un dans les années à venir qui...
Ah ben, mon objectif, c'est d'avoir toujours de nouveaux modèles, des choses que je ne connais pas, des choses que je n'ai jamais vues, de monter en gamme, de trouver des voitures avec toujours des histoires de toujours plus intéressantes et passionnantes. En fait, le but, c'est d'arriver vraiment à trouver des pépites.
Bien sûr.
Ça, c'est mon objectif.
D'accord, très bien. Et tu penses que tu vas pouvoir y arriver toute seule, justement, à trouver ce type de pépites, ou tu penses que au fur et à mesure, malgré le fait que vraiment tu adores la relation avec ta clientèle qui est assez proche, est-ce que tu penses que tu vas devoir quand même te développer et prendre, par exemple, un local
Honnêtement, sur la question du local, aujourd'hui, tu cherches un modèle de véhicule de collection, tu fais quoi? Tu vas sur Internet?
Oui, bien sûr.
Ok, donc la voiture est que ça dans un endroit X, Y ou Z.
C'est vrai.
Donc, si tu veux, le concept du local, alors oui, pourquoi pas éventuellement réfléchir à une idée d'avoir un local pour stocker des autos que les gens ne pourraient pas stocker. Mais si tu veux, moi, j'ai affaire à des gens qui préfèrent avoir leur voiture chez eux, quoi.
Oui.
Et moi, je pense que mon développement ne passe pas par l'achat d'un local.
D'accord.
Et mon développement passe par le développement de mon portefeuille. Et après, les relations clients que j'ai, les clients, je les ai vraiment à la source.
Bien sûr.
Donc, c'est le développement d'aller à droite à gauche, de toujours aller sur les salons, de faire des concours d'élégance. Là, par exemple, tu vois, dimanche, je vais à Mougins. Tu as le Rotary Club de Mougins qui organise un concours d'élégance pour des enfants.
D'accord.
Ils m'ont demandé d'exposer une de mes autos que j'ai à la vente. Très bien. Donc ça, j'y participe.
Bien sûr.
En juillet, je fais la même chose avec ma Jaguar Type E à Cannes.
D'accord.
Donc moi, mon développement, il passe par ma présence dans des événements,
bien sûr.
Et par toujours plus de relations avec les clients, mais pas forcément par une structure.
D'accord.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, alors on parle de ce qui se passe au niveau de la conjoncture, avoir une structure aujourd'hui, avoir des charges de structure fixe, quand tu vois la difficulté des ventes, je ne suis pas convaincue, moi, pour l'instant.
Non, c'est sûr.
Et moi, si tu veux, moi, c'est vraiment mon côté relation humaine. Puis bon, c'est des questions d'organisation. Demain, je prends un local, c'est très bien. Mais moi, je passe beaucoup de temps à aller à droite à gauche dans les garages. En fait, c'est moi qui vais aux gens. Je fais du porte-à-porte. Je vais vers les gens.
D'accord. Bien sûr.
Et j'ai pu rencontrer plus de gens qui ont une voiture dans un garage qui ne savent pas comment vendre plutôt que quelqu'un qui a une voiture mais qui n'a pas de garage et qui veut la mettre dans un dépôt. Ça m'arrive 1% de fois. 99% du temps, c'est des gens qui ont un garage, qui ont tout ce qui va bien, mais ils ne veulent juste pas s'en occuper. Donc, si tu veux, je pense que mon modèle, il n'a pas de limite.
C'est ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Et je favorise plutôt la relation humaine.
D'accord, très bien. Et donc, du coup, quel conseil tu donnerais tout simplement à un jeune qui a envie de se lancer dans le milieu de la collection et en fait qui ne sait pas par où commencer
J'ai envie de dire déjà, de un, il faut quand même connaître un peu son sujet parce que souvent, les collectionneurs, ils connaissent mieux le sujet que toi. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas tout savoir. Mais si tu comprends... Enfin, si, parce qu'il y a deux approches. Soit tu veux faire du commerce pur et dur.
Oui.
Et tu dis, je vais mettre un local, je vais mettre des voitures et puis je vais faire achat-revente. Oui, tu peux, mais en soi, moi, c'est... Moi, ça peut peut-être marcher, hein, mais je me dis, si tu n'as pas la passion, est-ce que ça peut marcher? Je ne sais pas.
Oui, c'est pas sûr. Bien sûr.
Si tu veux te lancer dedans, il faut que tu aies un réseau, il faut que tu aies des contacts et il faut que tu en connaisses. Parce que moi, je pense que si tu n'en connais pas, si tu te... Alors, c'est dommage hein, ce que je vais dire. Enfin, Si tu te cantonnes à ton simple rôle de vendeur strict, pur et dur, je vends un produit d'une personne A à une personne B, moi, je ne suis pas sûre. Alors, ça peut marcher sur une polo,
oui.
Mais je ne suis pas persuadée que sur un modèle ancien, ça fonctionne.
Non, bien sûr.
Donc, c'est pour ça que moi, je te dis, si je me suis lancée, c'est parce que j'avais des connaissances, j'avais du réseau et j'avais un portefeuille. Je ne me serais pas levée un beau matin en me disant, bon, allez, aujourd'hui, Virginie, tu vas vendre des voitures de collection. Bien si je n'avais pas cette connaissance. Parce que moi, je pars du principe que pour faire quelque chose bien, il faut que tu connaisses. Donc, moi, je dirais, pour débuter, il faut débuter petit. Il faut étudier un modèle économique qui soit viable et qui soit capable de traverser des périodes comme on traverse aujourd'hui.
Bien sûr.
Ça passe par la réflexion d'une structure ou pas d'une structure. Il faut vraiment essayer de se mettre dedans, quoi.
Il faut se faire connaître également, je pense. Enfin,
Ah, il faut se faire connaître. Alors moi, j'ai la chance que du coup, maintenant, on me demande de venir pour les concours, donc c'est plutôt cool. Mais au début, c'est moi qui me prenais, qui allais me présenter avec mes cartes. Surtout quand tu es une femme dans ce milieu, quand on commence à te parler de carburateur, mais on te regarde avec l'air de penser que tu sais pas ce que ça veut dire. Alors là, tout de suite, moi, ça a le don de... oui, je suis une femme et oui, je sais ce que c'est qu'un carburateur. Mais tu peux pas te lancer comme ça sans filer. Enfin, je pense que c'est par rapport à la période dans laquelle on vit.
Bien sûr.
Je pense que... je sais pas, je peux pas me dire, bon, alors moi, j'adore les BMW M3 E30, je vais me lancer dans les ventes de collection. Si tu connais pas, ça risque d'être difficile. Parce que ce qui se passe, moi, enfin, de mon cas à moi, c'est mon expérience, donc je le donne. Les gens, aujourd'hui, ils font appel à moi parce qu'ils savent que je suis carrée. Parce qu'ils savent que je vais pas, comment dirais-je, leur dire que leur voiture, elle vaut 40 si elle vaut 20 pour prendre un mandat. Parce qu'ils savent que je sais où je plante, entre guillemets. Donc, et ça, c'est très important.
Bien sûr.
Parce que si tu arrives, je ne sais pas, moi, demain, il y a quelqu'un qui t'appelle pour vendre une voiture de collection, que tu ne sais pas que sur ce modèle, le moteur, il est à l'arrière, que tu ne sais pas démarrer, que tu ne sais pas passer les vitesses, que tu n'es pas habitué à être dans la vieille, entre guillemets, je me dis, comment va réagir le client ?
C'est sûrement mal, je pense.
Qui plus est, si tu es seul comme moi à ton compte et que tu vas vers les gens dans leur garage.
Bien sûr.
Si tu es dans un dépôt-vente où les gens ils viennent garer leurs autos, mais là encore, moi, je ne suis pas persuadée du modèle hein, parce que je trouve ça super impersonnel. Mais moi, j'aurais du mal à me lancer si je ne connaissais pas. Donc, le conseil, c'est se lancer dans quelque chose qu'on connaît.
D'accord, très bien. Et dernière petite question qui me vient comme ça. Est-ce qu'à tout hasard, tu as eu du mal à tout simplement en fait, t'implanter dans le secteur de l'automobile en étant une femme ?
Eh bien non, figure-toi, ça m'a vachement aidée.
D'accord. Dans quel contexte ?
Alors, malheureusement, alors ça, je te livre les témoignages de mes clients. Ce n'est pas quelque chose que je te dis de
D'accord.
moi. Les clients me disent être un petit peu fatigués des vendeurs auto.
D'accord.
Fatigués du fait que, bon, bah, ils veulent vendre, mais sans trop s'investir, entre
Bien
guillemets.
Sûr.
Et le fait que je sois une femme, ça inspire plus la confiance. Je te donne ce qu'ils m'ont dit.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc moi, non, ça m'a pas... Ça m'a aidée d'être une femme parce que justement, il n'y a pas le profil du vendeur, quoi.
D'accord, très bien.
Il y a vraiment le profil d'une passionnée. Et puis, de toute façon, je le dis toujours, moi, je ne suis pas mécanicienne. Bien évidemment, je sais très bien où sont les pièces, mais je ne vais pas trop faire un moteur. Par contre... Je suis capable de savoir sur cette voiture, il y a un problème, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu me dis, j'ai changé l'émetteur récepteur en voyage, je sais où c'est. Enfin,
bien sûr,
donc
bien sûr.
Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, moi, quand je bosse une voiture, je vais très, très, très loin dans les recherches.
D'accord.
Et je pense que c'est le sérieux qui a aidé. Et le
D'accord.
fait d'être une femme, les gens se méfient peut-être moins.
Ok. Très bien. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la particularité de cette voiture ?
Alors. Je pense que vous l'avez reconnu, c'est une Fiat Dino 2400, donc un 2,4 litres de 1972. Donc là, on est vraiment dans le vintage avec un intérieur marron qui est dans son jus. Seule chose qui n'a pas été d'ailleurs restaurée. C'est un coupé qui a été dessiné par Burton dans D'accord. les années 70. Deux motorisations, les 2000 et les 2400, deux versions, les coupés et les cabriolets étant les plus recherchés et les plus rares.
D'accord.
Mais on a quand même dans les coupés, il y a pas mal de connaisseurs. Et grosse, grosse particularité de cette voiture, elle possède un triple carburateur Ferrari, quoi, moteur Ferrari.
D'accord,
C'est
incroyable.
ça qui fait un peu son charme, mais aussi sa fragilité.
D'accord.
Une voiture à moteur Ferrari de ces années-là, on sait que ça doit être super bien entretenu.
Oui.
Parce que sinon, c'est très, très difficile à conserver. C'est comme un V12 d'une Type E, par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait un suivi.
D'accord.
Alors celle-ci, pour le coup, elle a été entièrement revue chez un garage spécialisé qui fait que des moteurs, on va dire Ferrari anciens.
D'accord.
Ça passe par plein de choses, hein, joint de culasse, réglage des carburants, réglage des culbutes, on a changé la pompe à eau, la pompe à essence. On va dire que mécaniquement, toutes les grosses pièces ont été changées.
D'accord.
Et là, c'est un exemple, mais quand on prend un véhicule comme ça à la vente avec un moteur Ferrari, la base, en fait, c'est de faire les compressions.
Bien sûr.
Parce que sur un moteur de ces années-là, tu peux te retrouver avec un piston, un cylindre qui est mort. Du coup, les compressions ne sont pas bonnes. Donc voilà, moi, quand mon client m'a dit, Virginie, je veux la vendre et tout ça, voici ce qui a été fait. OK, mais on va faire les compressions pour être sûr que ce moteur est sain et fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est la base. Ensuite, ce véhicule a eu une peinture
D'accord.
complète. C'est sa couleur d'origine, a envoyé beaucoup de marron à l'époque. Donc c'est vrai que c'est très vintage parce que marron avec les intérieurs en tissu comme ça.
Bien sûr. Donc
Tableau de bord, voilà.
on est matching color et matching number sur cette
Alors non,
voiture.
elle n'est pas matching number, celle-ci. Elle a dû dans sa vie antérieure connaître un changement de moteur. Ça arrivait souvent parce que c'est des moteurs capricieux.
D'accord.
Mais en tous les cas, elle est matching color. Ça, il n'y a pas de souci. C'est un véhicule qui a été expertisé. Voilà, pour le présenter à la vente, on présente tout ce qu'on a fait dessus, on présente une expertise, on fait un essai routier. Alors c'est sympa parce que moi j'aime bien la coupe, je trouve que c'est un charme fou ce petit coupé avec ses jantes.
Bien sûr.
Les boîtes, hein, comme Ferrari, hein, la première en bas, ne nous trompons pas. On a déjà les vitres électriques, alors ça c'est quand même pour l'époque, voilà. Et on est très très confortablement assis.
Bien sûr.
Donc voilà, la seule chose qui a voulu être gardée, on va dire, c'est l'intérieur. Parce que c'est vrai que, bon, elle est de 72, il n'y a pas trop de gens qui sont assis derrière. Bon, c'est quand même sympa parce que c'est difficile de retrouver les tissus d'origine et les moquettes. Tant que tu peux, on va dire, conserver le max d'origine sur une auto comme ça, il faut le faire.
Bien sûr.
En termes de mécanique, là, c'est autre chose. Parce que surtout sur des moteurs comme ça, il faut vraiment tout faire. Mais quand tu peux conserver, alors peut-être que tu auras des sièges un peu patinés, peut-être que tu auras aussi ici des chromes un petit peu qui auront des petits coups, mais c'est quand même, si tu veux, c'est quand même l'esprit de l'auto et puis c'est son histoire, quoi.
Bien sûr.
Donc celle-ci, quand tu rentres dedans, elle a l'odeur qui va bien, ce que j'appelle. C'est-à-dire, elle a la bonne odeur. Tu as le ciel de toit d'origine. Alors en général, sur des voitures ces années-là, tu as les ciels de toit dans des états.
Oui, qui sont
Tout déchiré, il faut savoir
déplorables,
que
bien
les
sûr.
gens vous disent non, c'est rien, mais c'est un gros poste de dépense que de refaire le ciel de toit d'un véhicule ancien. Parce qu'en plus, il faut trouver la personne qui fait ça correctement.
Bien sûr.
Donc, essayez de conserver au max vraiment comment dirais-je, les éléments d'origine. Et puis après, ben, là, la peinture, en l'occurrence, n'était pas vraiment pas belle. D'où la décision de faire une complète.
Bien sûr.
Parce que pour présenter un véhicule comme ça, c'est. Voilà. Donc voilà, c'est un véhicule qui est quand même assez recherché, on va dire, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, hein. On a dit 2400 exemplaires, mais on va dire que ce qui peut-être peut bloquer un peu, c'est des fois les gens vous disent, oui, mais c'est un moteur Ferrari. Ben justement,
Justement, ça qui est
justement,
exceptionnel, bien sûr.
c'est ça qui est exceptionnel. Mais il faut en prendre bien soin. Si vous achetez un modèle de Dino, toujours bien faire attention que ce véhicule a été bien suivi mécaniquement.
Bien sûr,
Voilà, c'est le plus
c'est
important.
important.
La carrosserie, l'intérieur, ça, on va dire que pour une voiture comme ça, c'est du secondaire. Voilà.
D'accord, très bien. Et donc, du coup, elle est disponible chez toi à la vente?
Elle est disponible à la vente, hein, pour les amoureux de vintage et de young timers. Elle a son expertise, elle passera son contrôle, enfin elle a passé son contrôle, mais on le remet toujours à jour de moins de 6 mois.
D'accord.
Et elle peut être essayée sans problème.
D'accord, très
Et
bien.
voilà, je suis à disposition s'il y a besoin.
Parfait, très bien.
Eh bien, écoute, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de tourner ce podcast avec
Eh
toi.
ben écoute, moi je me suis régalée. C'est génial de pouvoir expliquer un peu ce qu'on fait aux gens, parce que de l'extérieur, souvent ils vous disent oui, vous êtes juste une intermédiaire, mais non, en fait, non, c'est pas ça. Il y a tout un côté humain et l'accompagnement, c'est quand même un gros poste. C'est
Bien
pas
sûr.
juste, je vous prends votre auto, je fais 3 photos, puis on la met en ligne et on verra.
Bien
Donc
sûr.
c'est, moi je suis contente de pouvoir expliquer comment je travaille en fait.
Mais justement, ce côté humain se perd en plus de plus en plus, donc
Ben oui, mais on est dans une société où tout se passe derrière les écrans, hein. Aujourd'hui, il y a des solutions pour vendre ta voiture de collection derrière un écran, mais bon, le côté un petit peu transmission, il est un peu mort. Mais c'est pour ça que je continue, moi, sur ma lancée. Enfin, c'est ça qui m'anime, en fait, dans ce que je fais.
Bien
Voilà.
sûr.
Vraiment.
Ah, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé au podcast.
Eh ben, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation.
Ben, merci beaucoup. Et puis, chers auditeurs, du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et j'ai bien évidemment toutes les informations dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à suivre Virginie Brosio sur Instagram, mais également sur son site internet pour toutes les autres annonces. Et puis, on se dit à très vite. Ciao!